Alors, il y a des vieilles questions. Je reprends et je continuerai tout à l'heure ce que nous avons vu la dernière fois. J'ai une question pour mieux comprendre la coopération de la recherche de la vérité avec l'amour dans la personne humaine. Oui, ça revient à ce que nous avions dit déjà et qui est un point particulier. Le réalisme de l'amour trouve-t-il sa source dans la capacité de l'intelligence à adhérer au réel par le jugement d'existence? Ou bien peut-on dire qu'il y a un réalisme spécial de la volonté par rapport à l'attraction du bien, en plus du réalisme de l'intelligence? C'est une question très, très délicate et intelligente. Bon, mon réalisme est premièrement dans l'intelligence. Quand l'intelligence est fourvoyée, c'est radical, parce que c'est fondamental, c'est premier. Le jugement d'existence, ceci est, dans la réalité, est capital. Et c'est ça qui a été perdu en France avec Descartes, en Allemagne avec Kant. Et il demeure, alors en Italie, il y a tout l'idéalisme italien qu'il a perdu aussi, ça. D'une façon plus souple. En Espagne, ça, je vois moins bien. Mais c'est net, le jugement d'existence sur lequel Aristote fonde toute sa philosophie. Platon ne fonde pas toute sa philosophie sur le jugement d'existence. Il la fonde sur l'intuition. Or, l'intuition porte sur la relation. Et beaucoup de gens se disent réalistes quand ils voient les relations. C'est le réalisme du mathématicien. Ça porte sur l'intuition des relations. Les mathématiques n'atteignent pas l'être, mais la relation. L'être mathématique est un être relatif. Ce n'est pas un être existant. Et je crois que les mathématiques chez Descartes sont la suprême certitude. Chez Kant, c'est la même chose. Les mathématiques ont joué un rôle terrible. Et aujourd'hui, au fond, l'éducation nationale, dont nous sommes privilégiés de ne pas l'avoir, l'éducation nationale pousse les mathématiques. Parce que les mathématiques peuvent être enseignées très jeunes. Au fond, le point de départ de notre intelligence, c'est la raison. Et on aime beaucoup les relations. Donc, on peut très bien pousser très vite l'éducation du côté de la relation, et par le fait même ne plus jamais saisir ce que c'est que le jugement d'existence. Je crois que pour un mathématicien, c'est extrêmement difficile d'atteindre le jugement d'existence. Parce que les mathématiques ont une certitude et une adhésion tellement forte sur notre intelligence que que notre intelligence liée au corps est premièrement mathématique. Le dépassement d'expérience se fait par le point de vue mathématique. Et dans le développement actuel de l'intelligence, ce sont les mathématiques qui l'emportent. Alors, donc, l'intelligence est foncièrement réaliste, radicalement réaliste. Alors, la volonté et l'amour présupposent l'intelligence. Est-ce que l'amour a son réalisme propre ? Est-ce que je peux dire que la volonté a son réalisme propre ? Quand je fais la distinction dans l'amour d'amitié, je prends l'amour d'amitié parce que c'est peut-être là que la volonté et l'amour reprend une exigence, un certain réalisme. Dans l'amour d'amitié, comme il est difficile de bien distinguer « je t'aime » et la réalité de celui que j'aime qui est autre que moi. Si facilement dans l'amour, je considère que l'autre, c'est moi. Vous voyez, je projette sur celui que j'aime toute mon affection. Je projette mon affection. Et au bout d'un certain temps, je ne vois plus que mon affection. Donc, l'intermédiaire m'empêche de saisir l'autre dans son originalité. C'est ce qu'on appelle la fusion. Bon, psychologiquement, on sait très bien que c'est le grand danger de toute amitié, c'est la fusion. Parce que dans la fusion, c'est celui qui est la plus grande capacité de puissance qui domine. Ce n'est pas la bonté qui domine, c'est la capacité de puissance. Et c'est pour ça que toujours, toute amitié qui se confond dans une fusion arrive à un drame. Où l'ami tue son ami, ça existe dans le monde végétatif, n'est-ce pas ? Qu'en aimant, on meurt. Certaines espèces d'animaux, c'est comme ça. C'est très étonnant. Ils s'aiment en s'unissant et il y a une procréation, il y a le fruit, mais celui qui aime meurt. Et psychologiquement, c'est ce qui arrive de temps en temps quand l'amour devient fusionnel et qu'alors il y en a un qui domine et l'autre devient la proie. Parce qu'il devient la proie, il est mangé pendant un certain temps. Au bout d'un certain temps, il ne reste plus rien. Alors, c'est-tu l'amour ? C'est au cœur de tous les drames fusionnels, ça. D'un amour qui a perdu son sens. Alors, c'est très significatif, ça. Ça montre bien que l'amour, par lui-même, n'a pas ce réalisme. Il l'a par l'intelligence. Plus j'aime, plus je veux être lucide dans mon amour. Et alors, je garde cette lucidité dans l'amour. Et je rends l'amour réaliste. Mais c'est l'intelligence qui rend l'amour réaliste. L'amour par lui-même fait la fusion. Et n'implique pas un vrai réalisme, sauf au point de vue surnaturel. Hein. Je parle d'un point de vue humain, là, purement philosophique. Au point de vue surnaturel, la charité vient de Dieu. Alors, la charité a sa propre lumière. Parce qu'elle vient de Dieu. Et qu'elle est donnée comme un don de Dieu. Donc elle a sa lumière parce que l'intelligence, au point de vue surnaturel, est limitée à la foi. Elle n'a donc comme intelligence comme qu'une adhésion de foi. Et comme l'amour vient de Dieu, dans l'espérance et la charité. L'espérance et la charité ont leur propre réalisme, ce qui n'existe pas au point de vue humain. Ça n'existe qu'au point de vue divin. C'est pour ça qu'au point de vue divin, la charité s'achève avec le don de sagesse. Et la lumière vient bien de la charité, pas de la foi. Puisque la foi, elle est existentielle d'une façon formidable. Elle adhère à la réalité, mais sans la comprendre. C'est le problème de la foi. Alors là, l'amour nous donne une certaine compréhension affective qui se réalise dans le don de sagesse. Qui se réalise pleinement dans le don de sagesse. Vous voyez, il y a donc une différence, et c'est très important, je crois, ça. Il y a donc une différence entre l'amour humain et l'amour divin. L'amour divin a son réalisme, le dépassement de la foi. L'amour humain, lui, son réalisme vient de l'intelligence. On le sait, pour celui qui aime l'amour d'amitié, il a toujours le souci de faire que son amitié implique une compréhension, une intelligence plus grande de l'autre. L'amour permettra une intelligence plus grande. Mais cette intelligence plus grande vient de l'intelligence. Ne vient pas de l'amour. Saint Thomas pourra dire, par exemple, que les réalités qui sont, au point de vue philosophique, les réalités qui sont supérieures à nous, il vaut mieux les aimer que les connaître. C'est une loi extrêmement profond, ça. Mais ça veut dire que justement, en les aimant, mon amour, en les aimant, mon intelligence atteindra certaines choses qu'elle ne peut pas atteindre autrement. Quand il s'agit des réalités supérieures à moi, c'est-à-dire l'homme et Dieu. Pour pouvoir bien connaître un homme, un ami, il faut l'aimer. Je ne connais jamais parfaitement un homme uniquement par la connaissance, par l'intelligence. Bon, on peut avoir des antipathies et des sympathies spontanées. Hein. Il faut faire grande attention à nos antipathies. Parce que nos antipathies nous empêchent de le connaître. Nos sympathies nous permettent de le connaître plus. Mais nos antipathies arrêtent la connaissance. Et ça, il suffit d'être un peu lucide vis-à-vis des antipathies qu'on a. Alors, on doit les dépasser, ces antipathies. Et on les dépasse en aimant celui avec qui, au point de départ, il y avait une antipathie. C'est pour ça qu'on voit ça chez des personnes très affectives. Ah, j'ai une antipathie pour cette personne. Oui, mais dépasser cette antipathie. On n'est pas comme le petit chien ou le petit chat, on a des antipathies, on n'y revient pas alors. Tandis que quand on a des antipathies, on fait un effort d'intelligence pour que celui ou la personne qui m'était antipathique me devienne sympathique. Si je la connais mieux, et c'est l'intelligence qui dépasse les sympathies et les antipathies. Les sympathies, elle est là pour dire attention, pas de fusion. Parce que la fusion conduit à des catastrophes. Et c'est très important d'être lucide. Oui, il faut être lucide dans ses amours. Et être lucide dans son amour, c'est que l'amour soit pénétré de l'intelligence. Parce que si on n'est pas lucide dans ses amours, fatalement, on tombera dans le piège de la fusion. Et fatalement, ça fera un drame. Toute fusion conduit au sauve qui peut. Ou bien à la mort. Alors, il faut choisir. Il faut le sauve qui peut ou la mort. L'écrasement, quoi. Une mort qui n'est peut-être pas une mort physique, mais une mort psychologique. Donc, vous voyez, cette question, elle est très délicate. Ou bien peut-on dire qu'il y a un réalisme spécial de la volonté par rapport à l'attraction du bien? Je dis, il y a un réalisme particulier de l'amitié. Mais ce réalisme de l'amitié, c'est l'intelligence dans l'amour. Ce n'est pas l'amour tout seul. Alors ça, je suis tout à fait d'accord qu'il y a un réalisme très particulier grâce à l'amour. Il y a le réalisme de l'amitié par rapport aux personnes. Et puis il y a le réalisme de la sympathie par rapport à tous les objets inférieurs à l'homme. Donc le réalisme propre vient de l'intelligence, toujours. Et il y a un réalisme particulier, l'intelligence à travers l'amour. L'intelligence peut se servir de l'amour pour aller plus loin dans sa connaissance. Quand il s'agit d'un homme, quand il s'agit d'une femme, c'est très net ça. Quand on l'aime, on le connaît mieux. On peut le connaître mieux. Mais grâce à l'amour, il y a une proximité qui se fait et qui fait qu'on peut mieux saisir. Mais le réalisme ne vient pas de l'amour. Le réalisme, l'amour permet un réalisme plus grand. Mais le réalisme vient toujours de l'intelligence. Alors, cette question ne nous aide-t-elle pas à découvrir comment la nature humaine est disposée à accueillir l'habitus de foi et le don de sagesse. Alors, ne confondons pas l'ordre naturel et l'ordre surnaturel. Parce que l'ordre surnaturel, notre connaissance est limitée à la foi. Dieu me dépasse, je crois. Je peux saisir et dire Dieu existe philosophiquement et je le dis directement par la foi. Dieu existe, mais il est infiniment plus grand que moi. Donc, je ne connais Dieu que partiellement. Alors, au plan surnaturel, la foi rend mon intelligence captive. Et c'est sûr. Mais Dieu m'aime. Dieu me choisit. Dieu m'a choisi et m'a donné son amour. Alors, grâce à cet amour, je peux m'approcher de lui. Je peux le prier comme quelqu'un qui m'aime. Et donc, quelqu'un qui me connaît parfaitement, devant lequel je n'ai pas à me cacher. Et à me montrer tel que je suis, avec mes qualités, mes défauts. Donc, être vrai. L'amour permet donc d'être en face de Dieu dans une nouvelle vérité. C'est de concevoir, de comprendre que Dieu me connaît complètement, entièrement, et qu'il y a entre Dieu et nous une connaissance mystérieuse qui demeure dans l'obscurité de la foi, pour moi, et qui pour Dieu, est totalement limpide, totalement lumineuse. J'ai donc une relation très particulière par rapport à la connaissance. Je suis entièrement illuminé de la lumière de Dieu, mais cette lumière de Dieu est trop forte pour mon intelligence, alors je suis dans l'obscurité. Mais je sais que Dieu m'aime. Et parce que je sais que Dieu m'aime, j'ai une proximité à son égard beaucoup plus grande. Alors vous voyez, ce n'est pas lumineux, mais c'est du côté existentiel. C'est du côté de la réalité que je suis dans la lumière de Dieu. Et que pour Dieu, je suis entièrement connue. La lumière de Dieu me saisit, me prend entièrement. Mais je ne suis pas pour cela dans la lumière de Dieu. Je sais que je suis dans la lumière de Dieu, mais moi, je n'ai pas la lumière. J'adhère à ça. Oui. Alors, c'est une connaissance existentielle qui est plus forte que tout et qui me permet d'aimer. Oui. Le réalisme de la foi me permet un amour total. Je peux me livrer à Dieu. Je peux laisser Dieu me conduire complètement. Et vous voyez, alors, à ce point de vue-là, je dis qu'il y a un réalisme de l'amour. Et c'est très vrai qu'il y a un réalisme de l'amour au point de vue surnaturel. Mais qui est un réalisme d'ordre existentiel. Pas du tout d'intelligibilité. Je reconnais que je suis conduit par Dieu. Alors c'est pour ça que cette question nous aide-t-elle à découvrir comment la nature humaine est disposée à accueillir l'habitude de foi. Oui. Elle me montre que du côté de Dieu, je suis parfaitement connu, entièrement. Et que la foi m'empêche de saisir cette lumière qui m'écraserait, elle est trop forte pour moi. Mais la foi me permet de vivre dans cette lumière divine comme si je la voyais. Et ça me suffit que Dieu ait sur moi cette plénitude de lumière. Vous voyez, c'est ce qui fait comprendre, du moins, le réalisme particulier de l'amour divin. Dieu m'aime dans sa pleine lumière, et moi, je l'aime dans l'obscurité de la foi. Et cette obscurité de la foi adhère à une lumière qui me dépasse, mais qui me rassure. Il y a une certitude que Dieu m'aime, une certitude de foi que Dieu m'aime. Donc un certain réalisme, un réalisme spécial. Le réalisme de l'amour surnaturel, qui n'est pas le réalisme du philosophe. Vous voyez, le réalisme du philosophe exige l'évidence. Et la certitude vient de l'évidence. Tandis qu'au contraire, le réalisme de la foi est un réalisme qui n'a pas d'évidence, mais qui est dans l'amour. Autre question. Père, le philosophe dit-il que l'âme séparée du corps n'est plus une personne ? Non. Le philosophe ne dit pas ça. Le philosophe n'a aucune expérience de l'âme qui quitte le corps. Donc, il est mystère. Quand mon âme quittera mon corps, elle ira auprès de Dieu, j'espère. Mais je ne sais absolument pas ce que sera la vie d'une âme séparée du corps. Je n'ai que l'expérience d'une âme unie au corps. Alors, la foi me dit que mon âme verra Dieu à la vision béatifique, verra le Christ à la vision béatifique. Donc, à ce point de vue-là, la foi me dit que mon âme séparée sera illuminée. Noble, je verrai Dieu face à face. Alors, je serai saisi par Dieu, saisi par le Verbe de Dieu, et je verrai tout en Dieu. Et par rapport à ceux qui sont sur la terre, est-ce que je serai avec eux? Alors oui. Je verrai par le Christ. Lui voit tout. Il est le bon pasteur. Je suis uni par le fait même à tous ceux qui sont les brebis du Christ. Le Christ peut me permettre de les connaître par lui. La médiation se fait par Jésus et par Marie. Peut-être par Saint Jean, je ne sais pas, puisque certains prétendent que le corps de Jean est monté au ciel. Ce qui est sûr, c'est que le tombeau de Saint Jean à Éphèse est vide. Alors, son corps a reposé là. Alors, on ne sait pas, hein, on ne sait pas. Il y a eu un petit congrès à Éphèse, sympathique du reste, pour essayer de voir qu'est-ce qu'on connaît exactement. Et on a fait ça pour obtenir la permission de dire la messe au lieu du tombeau. J'ai obtenu la permission de le dire avant l'ouverture du musée, pour ne pas gêner, évidemment, les visiteurs. Alors, on peut un droit particulier, parce qu'on tenait beaucoup à pouvoir dire la messe là, Éphèse, tout près du tombeau de Saint-Jean. Alors, on voit le tombeau, je l'ai vu, mais il n'y a rien dedans. On voit le tombeau fermé, évidemment, pas ouvert. On l'a ouvert au IVe siècle. Il y a eu une fumée, un brouillard, qui est sorti du tombeau, qui reste énigmatique. Qu'est-ce qu'il y a? En réalité, alors certains ont dit que l'amour de Marie pour Jean est un maternel. La mère aime le corps. Marie était mère de Jésus, du corps. Jésus l'a donné à Jean à la croix. elle aime son âme en premier lieu, mais aussi son corps. Mais ça, on ne sait pas. Hein. L'Église s'est tue là-dessus, complètement. Alors, on peut, dans son affectivité, penser à ça. Mais il ne faut pas trop d'imagination. D'imagination pieuse. Au sens, c'est très mystérieux, la vie de ce qu'on aime actuellement auprès de Jésus. Je crois que Jésus, bon pasteur, continue d'être un bon pasteur. Et ceux qui sont partis avant nous et qui nous aimaient beaucoup, restent fidèles à leur amour, puisque c'était la charité fraternelle. Et donc, le Christ permet sûrement à cela d'avoir une connaissance vis-à-vis de ceux qui sont sur la terre et qui sont liés à eux par la charité. Alors voyez, toujours la charité, l'amour de charité qui devance la vision. Nous sommes des personnes comme ça. Hein. Par la charité, nous aimons Dieu totalement. Nous pouvons l'aimer totalement. La charité demeure la même. Mais dans l'exercice de la charité, elle est totalement différente. Elle est dans la foi, ici sur terre. Elle sera dans la lumière. Alors, ce sera un exercice totalement différent. Mais nous serons unis au Christ. Et par Jésus, nous pourrons, voyez la finalité, par le Christ, pourront être unis à ceux qui sont sur la terre. Il peut y avoir à ce moment-là une union et une espèce de connaissance pour celui qui est dans la lumière, dans la vision béatifique. C'est facile de recevoir cette lumière du Christ et de Marie. Parce que la vision béatifique nous donne une plénitude de connaissance. Dieu. C'est en Dieu et par Dieu que nous aimons ceux qui sont sur la terre, dans le ciel. De sorte que on comprend très bien que nos saints protecteurs, un saint Jean, un Théophile, grâce à saint Jean, je suis persuadé, grâce à Marie, nous connaît, qu'il reste lié à ceux de la terre, mais pas lié, vous voyez, très libres, puisqu'ils sont dans la vision béatifique, mais ils s'intéressent et dans un abandon complet à la volonté de Dieu, et ils nous aident. La prière qu'on a vis-à-vis d'eux n'est pas une prière qu'ils ignorent, ils la connaissent. On ne peut pas dire grand-chose, seulement la miséricorde du Christ. Comme cette miséricorde est infinie, Jésus sait bien que ceux qui nous ont connus, et ils sont morts avant nous, s'intéressent à nous d'une façon très particulière. Ils s'intéressent à nous dans notre vie surnaturelle. Ne s'intéresse pas à nous dans notre vie commerciale, si on fait du commerce. Au contraire, ils nous apprennent à mettre notre cœur dans notre amour pour Jésus, notre amour pour Marie, notre amour pour nos frères, mais à dépasser tout temporel. Eux ont complètement dépassé le temporel. Et ils savent, par expérience, avec la vision béatifique, que le temporel est nécessaire tant qu'on est sur la terre, mais surtout pas d'y mettre notre cœur. Donc ils nous apprennent à avoir cette liberté intérieure vis-à-vis de tout ce qui est temporel. Ne pas le négliger, mais être libéré d'affections trop fortes à l'égard du temporel. Et ça reste évidemment hypothétique, mais une hypothèse qui repose sur la miséricorde du Christ. Donc c'est une hypothèse qui est très forte, surtout actuellement, où il y a comme une grâce particulière de découvrir cette miséricorde du Christ. Et alors on peut découvrir cette miséricorde du Christ par rapport à ceux qui, dans le ciel, nous voient, s'intéressent à nous par la miséricorde du Christ.